Juliette Rangeval.
Bonjour, liberté d'expression, droit au blasphème d'un côté, respect des croyances, vivre ensemble de l'autre. Accent d'Europe s'interroge aujourd'hui sur ces notions qui paraissent parfois inconciliables. Jusqu'à présent, Athènes était la seule capitale de l'Union européenne à ne pas disposer d'un lieu de culte officiel pour les musulmans. L'ouverture début novembre d'une première mosquée dans la capitale grecque vient de changer la donne pour une communauté estimée à Athènes à environ 500 000 personnes. On retrouve à Athènes notre correspondant Joël Brunner. Bonjour Joël.
Bonjour.
Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu la moindre mosquée auparavant à Athènes pour les musulmans ?
Concrètement, des mosquées à Athènes, il y en avait une petite poignée par le passé, toutes héritées de près de 4 siècles de présence ottomane. Mais depuis l'indépendance de la Grèce moderne, au début du 19e siècle, certains de ces édifices religieux ont disparu, tandis que d'autres ne sont plus utilisés comme lieu de culte. C'est le cas par exemple au centre d'Athènes, de la mosquée Tsis d'Arakis, située place Monastiraki, qui a été transformée en musée de l'art populaire, ou de la mosquée Tfetichie, qui après avoir été une école puis un bâtiment militaire, est devenue là aussi un lieu d'accueil pour des expositions.
Mais qu'est-ce qui a fait, Joël, que la capitale grecque mette près de 2 siècles à se doter d'un lieu de culte officiel pour les musulmans ?
Au départ, le poids de l'histoire y est pour beaucoup. La Grèce moderne se construit en effet contre l'Empire ottoman, considéré comme un occupant, et l'islam est alors la religion de cet occupant. De plus, à part une minorité d'environ 150 000 musulmans dans la région de Thrace, dans le nord du pays, où là, des mosquées existent, il y avait tout simplement assez peu d'adeptes de l'islam dans la capitale de l'État grec, où l'église orthodoxe est largement prédominante. La progression du nombre de musulmans à Athènes, par ailleurs majoritairement sunnites, est un phénomène, lui, essentiellement contemporain, lié aux migrations des 20 dernières années.
Malgré tout, Joël, il a fallu attendre un certain nombre d'années avant que cette première mosquée officielle n'ouvre ses portes dans la capitale grecque.
Oui, cela fait près de 20 ans que le projet d'une mosquée officielle à Athènes est sur la table. Mais entre l'opposition initiale de l'église orthodoxe, certains mouvements nationalistes, la lenteur de l'administration et la crise économique, les choses ont pris du temps. Avant les JO d'Athènes de 2004, l'Arabie Saoudite proposait par exemple de financer une mosquée non loin du nouvel aéroport de la capitale. L'église orthodoxe s'y est opposée, arguant notamment que cela donnerait aux visiteurs de passage une fausse idée de l'identité du pays. Bref, en l'absence d'alternative, la communauté musulmane d'Athènes priait jusqu'à présent dans des appartements, des caves ou encore des hangars. Mais aujourd'hui, cette première mosquée qu'a financée l'État grec peut accueillir en théorie jusqu'à 350 personnes dans le quartier de Votanikos, dans l'ouest de la capitale. Son inauguration officielle attendra encore néanmoins la fin du confinement actuel, qui impose la fermeture de tous les lieux de culte en Grèce, à minima jusqu'à la fin du mois.
Merci Joël, à bientôt. Les dernières attaques djihadistes, au moment où se tient à Paris le procès des attentats de janvier 2015, ont de nouveau enflammé la France. Et l'on se demande où est l'esprit Charlie, 5 ans après l'attaque meurtrière contre la rédaction du journal satirique. Le président Emmanuel Macron estime que les médias anglo-saxons ne comprennent pas la laïcité à la française quand ils jugent que les caricatures de Mahomet sont la cause de violence. Il faut dire que sur l'affaire des caricatures, la France paraît souvent bien isolée. En Russie, par exemple, pas de droit au blasphème, c'est même un délit. C'est un reportage de Jean Casset à Moscou.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
L'appel du muezzin, les prières en arabe, sont suivis d'un sermon en russe. Nous sommes à Moscou, au cœur de la mosquée cathédrale, l'une des plus grandes mosquées d'Europe. Ici, rien d'inhabituel. La Russie abrite la plus grande population musulmane d'Europe, avec 25 millions de fidèles, environ 15% de la population totale, concentrée dans 2 régions, le Caucase du Nord et le bassin de la Volga. Mais nuance importante, cette population n'est pas issue de l'immigration. Elle est historique. La mosquée cathédrale de Moscou l'illustre très bien. Inaugurée en 2011, elle a en réalité été construite à l'emplacement d'un lieu de culte remontant à 1904. En plus des salles de prière en elles-mêmes, on y trouve aussi les bureaux du Conseil des Muftis, une organisation représentant les musulmans de Russie. Damir Moukheddinov, premier adjoint du directeur du Conseil, nous accueille. Entre son masque et son turban, 2 yeux d'un bleu persan. Spécialiste de l'histoire de l'islam en Russie, il raconte.
L'islam en Russie a 2 origines. D'abord le Caucase, lié aux Arabes et à leurs incursions militaires. La seconde est pacifique. C'est celle des autoroutes de la soie, des prêcheurs et des marchands, qui établit l'islam dans la région de la Volga et de l'Oural. Du point de vue de la géographie et de l'histoire, la plus grande partie de la Russie actuelle a été gouvernée par des dirigeants musulmans du 7e au 16e siècle. Donc nous disons toujours que l'islam, pour la Russie, ce n'est pas une religion importée. Aucun gouverneur, aucun dirigeant ne peut dire aux musulmans de Russie qu'ils ont débarqué ici avec leur religion. Les musulmans leur répondraient « C'est vous qui débarquez, nos ancêtres vivent ici depuis 1400 ans, et vous, vous venez d'arriver. »
De fait, étendue sur un territoire immense et ethniquement très divers, la Russie possède des populations autochtones de la quasi-totalité des religions du monde, chrétiens et musulmans, mais aussi juifs, bouddhistes d'Extrême-Orient, et de multiples croyances animistes parmi les peuples nomades de Sibérie et du Grand Nord. Et bien que l'État russe soit officiellement laïque, le discours public en Russie accorde aux religions une place très importante, tout particulièrement depuis le début des années 2010 et le tournant conservateur pris par Vladimir Poutine. Ouvertement très religieux, s'affichant volontiers aux côtés du patriarche de l'Église orthodoxe russe, il rencontre aussi régulièrement les représentants des différents cultes. Voici ce qu'il leur déclarait le 4 novembre dernier, parlant des attentats en France.
Nous voyons à quoi mènent les actes des provocateurs, de ceux qui, s'abritant derrière la liberté d'expression, insultent les sentiments des croyants, et les actes de ceux qui se servent de cela comme d'un prétexte pour justifier la violence et l'intolérance. Le résultat est le même. Les conflits croissent au sein de la société, et cela peut prendre des années ou des décennies pour les résoudre. Il faut éviter cela à tout prix en Russie.
Renvoyer dos à dos ceux qui insultent les religions et ceux qui justifient la violence, l'expression a de quoi choquer, mais dans la bouche d'un président russe, elle prend un sens particulier, car en Russie, insulter les sentiments des croyants, c'est un délit, en vertu d'une loi qui existe depuis l'époque soviétique, renforcée en 2013 après l'épisode de la prière punk du groupe d'activistes Pussy Riot dans une cathédrale orthodoxe. Elle fait de l'insulte aux croyants un délit pénal. Critiquée à l'époque, cette loi est aujourd'hui montrée en exemple par certains, qui remarquent que dans un contexte mondial très tendu, elle permet de préserver une certaine forme de concorde entre les religions. Plus simplement dit, en Russie, les caricatures du prophète sont interdites et cela aurait permis d'éviter des événements dramatiques dans le pays. Damir Moukheddinov.
À l'époque, je m'étais prononcé contre ce projet. Cette loi ne doit pas créer un groupe privilégié dans une société laïque. Ou alors, il faut une loi qui défende les droits des athées et des gens sans religion. Aujourd'hui, cette loi, dans la pratique, a été utile. Dans le cas contraire, il y aurait pu avoir des conséquences graves si les journaux libéraux russes s'étaient mis à imprimer ces caricatures. Il aurait été très difficile de prévoir les conséquences des dirigeants religieux et des fidèles, car en plus des dirigeants, il y a les masses. Par exemple, ces gens qui sont venus manifester devant l'ambassade de France en Russie. Ce n'est pas nous qui leur avons demandé de le faire.
Nous, ce sont les autorités religieuses. L'islam ne possède certes pas d'autorité spirituelle centrale, mais conséquence sans doute de son enracinement historique dans le pays, l'islam de Russie possède plusieurs institutions reconnues qui captent à elles toutes les différents courants musulmans, les encadrent et dialoguent avec le gouvernement russe. C'est par exemple le Conseil des Muftis et ses imams nés et formés en Russie, mais ce sont aussi des personnalités comme le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, très critique de la France dans la foulée des attentats du mois d'octobre dernier. Il professe un islam rigoriste et a instauré sur son territoire une quasi-théocratie. Moscou le laisse faire, car parallèlement à son intégrisme revendiqué, Kadyrov professe aussi une fidélité totale à la Russie et à Vladimir Poutine. Singing, God save Ireland, cry the
heroes. God save Ireland, cry we all. En Irlande, le terrorisme islamiste n'a jamais frappé, mais la population se souvient des attentats nombreux perpétrés pendant les troubles, dans les années 1970-1990 et auparavant pendant la guerre civile, il y a un siècle. Perpétrés par les républicains comme par les unionistes. Mais alors aujourd'hui, comment tracer une limite entre glorification des combattants et apologie du terrorisme? On voit ça avec notre correspondante en Irlande, Emeline Vin.
Comment regarder son histoire en face? Ça reste très très compliqué et assez tabou. Commençons par la guerre d'indépendance, au début des années 20. Dans la littérature grand public, dans le cinéma, par exemple, le très bon Le Vent se lève de Ken Loach, c'est souvent le même schéma, plutôt favorable aux indépendantistes irlandais opposés aux colons britanniques. Le mythe national repose sur une nation résistante, un peu comme en France, pendant l'occupation. Un exemple, quand le gouvernement irlandais a proposé en début d'année de commémorer la Royal Irish Constabulary, la police irlandaise royale, composée principalement d'Irlandais mais aux ordres de la couronne, l'outrage public a été immense. Dans plusieurs manifestations, on a pu entendre cette chanson « Come out your black and tans » à la gloire de l'IRA. I was born on the Dublin street where the lyre runs the beat and the loving English feet that walked all over us and every single night when we down.
would come home tight. He'd invite the neighbours out with this chorus. Come out, chipolakins hands, come out and fight me like a man.
L'armée républicaine irlandaise, Emlyn, active également pendant les troubles, est considérée comme un groupe terroriste par plusieurs pays.
En effet, qui a longtemps été le bras armé d'un parti politique toujours actif, le Sinn Féin. Il n'existe pas en Irlande de crime ou de délit sur l'apologie du terrorisme pour les individus tel qu'on le connaît en France. Il ne s'applique qu'à des organisations. Ainsi, lors des élections en février 2020, on a pu entendre dans des QG du Sinn Féin des partisans crier « Debout l'IRA » et ne pas être poursuivi. Ce débat est considéré comme fermé depuis l'accord du Vendredi Saint en 1998 et le démantèlement des organisations républicaines et unionistes. Les négociations, supervisées par le président américain Bill Clinton, avaient veillé à se distancier des appellations sectaires, antagonistes, s'inspirant par là du travail de l'un des plus grands poètes irlandais, le prix Nobel Seamus Heaney, qui écrivait dans l'une de ses œuvres les plus connues, The Cure at Troy, son souhait de justice sans vengeance et de faire rimer espoir et histoire.
Dans l'ombre du conflit au Haut-Karabakh, derrière l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a le président russe Vladimir Poutine et le turc Recep Tayyip Erdogan, qui se maintient au pouvoir grâce aux islamistes et aux ultranationalistes. Recep Tayyip Erdogan est l'Européen de la semaine de Béatrice Leveillé.
L'Azerbaïdjan a remporté cette bataille grâce au soutien de Recep Tayyip Erdogan. Mais pour Tornike Gornadze, chercheur spécialiste du Caucase, l'accord de paix est loin d'être la victoire du président turc.
Cet accord de paix qui a été conclu sous l'égide de Moscou est considéré par la majorité des observateurs comme la victoire de Moscou et non pas comme la victoire d'Ankara. Mais la Turquie obtient quand même un certain nombre de choses. Bakou fait beaucoup plus confiance à Ankara qu'à Moscou et Bakou essaiera d'accroître la présence, y compris la présence militaire turque sur son territoire, pour contrebalancer un petit peu à l'apparition de cette nouvelle présence militaire russe sur le territoire de l'Azerbaïdjan.
Recep Tayyip Erdogan augmente son influence dans le Caucase, mais il n'a pas réussi à prendre sa revanche sur Moscou. Dorothée Schmidt, responsable du programme Moyen-Orient-Turquie à l'IFRI.
Si cette victoire peut être présentée comme telle par Erdogan, en réalité, on voit très bien que la Russie a, elle, pris une sorte de revanche sur la Turquie par rapport à ce qui s'est passé, notamment en Libye cet été, mais aussi à cet affrontement qui se passe en Syrie avec l'armée loyaliste à Bachar al-Assad d'un côté, les forces turques et les mercenaires islamistes de l'autre. La Turquie a répliqué des schémas d'intervention qu'elle avait eu en Syrie ou en Libye, donc en faisant appel à des mercenaires et en utilisant aussi cette technologie des drones qui a été tellement efficace en Libye entre le printemps et l'été 2020. Donc ce terrain d'exercice militaire, il a été investi parce que la Turquie aujourd'hui est dirigée par une coalition entre les ultranationalistes et les islamistes. L'Azerbaïdjan étant considéré comme le petit frère de la Turquie, on avait une sorte d'obligation vis-à-vis de l'opinion publique turque pour Erdogan, vis-à-vis de son électorat, d'intervenir dans ce conflit qui réveille évidemment l'antagonisme avec les Arméniens sur fond d'un nouveau révisionnisme sur le génocide arménien.
Ce conflit conforte la posture nationaliste et islamiste de Recep Tayyip Erdogan, considéré par les frères musulmans comme le nouveau calife. L'Europe est-elle aussi une cible pour le président turc, Cyril Brett, directeur du site Eurasia.
Que ce soit en Afrique du Nord, en Libye, en Méditerranée orientale, au large de la Grèce et de Chypre, dans le Caucase et en mer Noire, effectivement dans tous les espaces, la même stratégie de réduction de l'influence européenne se constate. C'est sans doute aussi pour la présidence Erdogan un moyen de compenser à l'extérieur ses déboires à l'intérieur et notamment la chute de la livre turque de plus de 30% et le ralentissement très marqué de l'activité économique.
La stratégie belliciste d'Erdogan, qui l'éloigne de l'Occident, est-elle tenable ? Tornike Gornadze.
Est-ce que la Turquie a les moyens d'être présent sur tous les tableaux ? Est-ce que le jour où elle ne pourra plus assumer ce rôle très actif, ça ne va pas se retourner contre lui ? C'est l'avenir qui nous dira.
En attendant, la situation économique se dégrade et la chute de la livre turque vient de contraindre Recep Tayyip Erdogan à limoger le gouverneur de la Banque centrale ainsi que le ministre des Finances, qui est également son gendre. Thank you.
Un automne tellement doux après un quatrième été consécutif de sécheresse en Europe. Le changement climatique se fait sentir et aujourd'hui, un tiers de l'Union européenne est concerné par le manque d'eau. Une nouvelle directive de l'UE a été votée en mai. Elle fixe un cadre juridique européen pour la réutilisation des eaux usées pour irriguer les champs, des eaux urbaines ou des eaux industrielles épurées. Exemple en Belgique avec Myriam Baël de la RTBF.
2017, 2018 et 2020 is nog droger.
Dans son champ de poireaux, Rick de la Meilleure énumère les années de sécheresse. Autour de nous, d'autres champs de Flandre occidentale avec leurs légumes alignés qui exigent beaucoup d'eau, dont ses choux-fleurs qu'il a dû arroser cette année dès le 7 avril. Ici en Flandre, les agriculteurs qui manquent d'eau n'ont qu'un accès très limité aux nappes phréatiques et arroser à l'eau du robinet est trop coûteux. Mais Rick de la Meilleure a une astuce.
Hier komt het water toe aan het veld.
Ici, par ce robinet, de l'eau arrive directement dans le champ, me dit-il, en montrant un robinet robuste à ses pieds. L'eau qui en sort est trois fois moins chère que l'eau courante et elle est abondante. Du coup, c'est facile. Des robinets comme celui-ci, il y en a 150 dans les champs environnants, connectés à 24 conduites souterraines. En les remontant, j'arrive ici. Devant une usine cubique et claire comme un gros sucre au milieu des champs. C'est le siège d'Ardo, entreprise belge de congélation de légumes, implantée dans 9 États européens.
Goedemorgen, ik ben Ignace Kint.
Ignace Kint est ici responsable des investissements.
Het idee is eigenlijk ontstaan in 2011.
L'idée est née en 2011. Nous avions eu un été sec comme cette année et nous avions constaté qu'en été, il y avait des pénuries structurelles d'eau. Or, nous, à Ardo, comme entreprise, nous rejetons toute l'année à la rivière de grandes quantités d'eau usée, épurée. L'eau que nous utilisons pour blanchir et surgeler les légumes.
Une usine qui rejette de grandes quantités d'eau et des agriculteurs qui en manquent, le lien a été fait en créant un bassin où l'entreprise stocke ses eaux usées après les avoir épurées. Pour le montrer, Ignace Kint monte un escalier de métal qui flanque un talus. Une fois en haut, on découvre ce qui ressemble à un lac artificiel.
Ici, nous sommes au-dessus du bassin, juste à côté de l'usine. On voit l'eau arriver de l'usine, c'est bien de l'eau nettoyée par notre épuration. Le bassin est aux deux tiers vide. Aujourd'hui, sur ces 150 000 mètres cubes, il reste un bon 50 000 mètres cubes. Plus de 100 000 mètres cubes ont été utilisés pour irriguer les champs autour de l'entreprise.
Ce bassin de stockage a coûté 1 million d'euros. Un quart a été financé par des fonds européens, les fonds Interreg, et le reste par l'entreprise. Et pour la distribution, ce sont les agriculteurs des environs qui ont mis la main au portefeuille. Réunis en coopérative à 50, ils ont financé les 6 pompes à la sortie du bassin et les 24 km de conduite. Cette initiative est la plus aboutie en Belgique, avec celle d'SB Frost en Wallonie qui suit le même modèle. Mais il aura fallu ici 7 ans entre l'idée et le vrombissement de ces pompes, parce que c'est un modèle collectif, un projet coûteux et que les procédures sont encore à roder. Mais d'autres formules plus légères apparaissent, la possibilité en Flandre, pour les entreprises autorisées et certaines stations d'épuration, de proposer leurs eaux usées aux agriculteurs par camion-citerne. Mais c'est moins local et plus de travail. 812 millions de mètres cubes d'eau ont ainsi été proposés cet été en Flandre, mais seule une petite partie a effectivement pu être utilisée.
Accent d'Europe, à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.